L'homme qui a surmonté sa peur. Il a fui pendant 18 ans pour ensuite découvrir que ce n'était pas nécessaire. Il a fondé les AA à Détroit. Pendant les 18 années qui ont suivi mon 21e anniversaire, la peur a gouverné ma vie. À 30 ans, j'ai découvert que l'alcool faisait disparaître la peur, pour un temps. J'ai fini avec deux problèmes au lieu d'un, la peur et l'alcool. Je viens d'une bonne famille pour les sociologues. Que les sociologues qualifieraient de classe moyenne supérieure. À 21 ans, j'avais vécu 6 ans à l'étranger, je parlais couramment 3 langues et j'étais au collège depuis 2 ans. Un revers de fortune dans la famille m'a forcé à aller travailler à l'âge de 20 ans. Je suis entré dans le monde des affaires pleinement confiant que le succès m'attendait. J'avais été élevé dans cette croyance et pendant mon adolescence, j'avais fait preuve d'un grand sens d'entreprise et d'imagination pour gagner de l'argent. Je crois me souvenir de n'avoir jamais connu de peur anormale. Mes vacances, que ce soit des vacances scolaires ou de travail, signifiaient voyage, et j'ai voyagé avec enthousiasme. Au cours de l'année qui a suivi ma sortie du collège, les rendez-vous se succédaient pour aller danser, pour aller au bal ou dans les soirées. Soudain, tout cela a changé. J'ai fait une terrible dépression. 3 mois au lit. 3 autres mois pendant lesquels je pouvais me lever, errer un peu dans la maison avant de retourner au lit. Quand des amis me rendaient visite pendant plus de 15 minutes, j'étais épuisée. Un examen en profondeur dans un des meilleurs hôpitaux n'a rien révélé d'anormal. Pour la première fois, j'ai entendu une expression que j'en suis venue à haïr. Il n'y a rien qui ne va pas au point de vue organique. Les psychiatres auraient peut-être pu m'aider, mais ils n'existaient pas encore dans le Midwest. Au printemps, je suis sortie pour la première fois. J'ai marché autour de la maison et j'ai tenté de tourner au coin. La peur m'a figée sur place, mais dès l'instant où j'ai repris la direction de la maison, la peur paralysante a disparu. C'était la première d'une série interminable d'expériences semblables. J'en ai parlé à notre médecin de famille, un homme compréhensif qui a consacré de nombreuses heures à essayer de m'aider. Il m'a dit qu'il était impératif que je fasse le tour complet du pâté de maison, quelle que soit l'angoisse que je ressente. J'ai suivi ses conseils. Quand je me suis retrouvée à un point directement à l'arrière de notre maison, d'où j'aurais pu couper à travers le jardin d'un ami, j'ai failli succomber à l'envie de rentrer chez moi, mais j'ai terminé mon périple en entier. Peu de lecteurs peuvent probablement comprendre, suite à une expérience similaire, la joie intense et le sens de la réussite que j'ai ressenti après avoir complété cette tâche si simple en apparence. Je ne m'attarderai pas aux détails de la longue route vers quelque chose qui ressemblait à une vie normale, la première courte balade en tramway, l'achat d'une bicyclette usagée qui m'a permis d'élargir mes horizons, ma première visite au centre-ville. J'ai obtenu un emploi de vendeur à temps partiel pour un petit imprimeur du quartier. Cela a élargi l'étendue de mes activités. Un an plus tard, je pouvais m'acheter un Roadster Model T et obtenir un meilleur emploi chez un imprimeur du centre-ville. On m'a gentiment mise à la porte de ce poste et du suivant avec un autre imprimeur. Je n'avais pas assez d'énergie pour un domaine de vente aussi difficile. Je suis devenue agent immobilier et gérant d'immeubles. À peu près au même moment, j'ai découvert qu'un cocktail en fin d'après-midi et quelques whisky soda en soirée me soulageaient des tensions de la journée. Cette heureuse combinaison de travail agréable et de l'alcool a duré 5 ans. Évidemment, le dernier a fini par détruire le premier, mais j'en parlerai plus tard. Tout a changé quand j'ai eu 30 ans. Mes parents sont décédés, tous deux la même année, en me laissant seul, homme quelque peu immature et protégé. J'ai aménagé dans un appartement pour célibataires. Ces hommes buvaient tous les samedis soirs et s'amusaient ferme. Ma façon de boire était bien différente de la leur. Je souffrais de maux de tête nerveux, particulièrement à la base du cou. L'alcool les soulageait. J'ai fini par découvrir que l'alcool était la panacée. Je me suis joint à leur fête du samedi et je me suis amusée moi aussi. En plus, je restais debout quand ils allaient se coucher pendant la semaine pour boire jusqu'à ce que je tombe endormie. Mon opinion sur l'alcool avait changé considérablement. L'alcool était devenu une béquille d'une part et d'autre part une façon de fuir la vie. Les 9 années qui ont suivi étaient les années de la dépression, tant nationale que personnelle. Avec une bravoure née du désespoir et de la complicité de l'alcool, j'ai épousé une belle jeune fille. Notre mariage a duré 4 ans. Au moins 3 de ces 4 années ont dû être un enfer pour ma femme, car elle a dû regarder l'homme qu'elle aimait se désintégrer moralement, mentalement et financièrement. La naissance d'un petit garçon n'a pu arrêter cette spirale descendante. Quand elle a fini par partir avec le bébé, je me suis enfermée dans la maison et je me suis saoulée pendant un mois. Les 2 années suivantes n'ont été qu'un long périple où il y a eu de moins en moins de travail et de plus en plus de whisky. Je me suis retrouvée sans domicile, sans travail, sans argent et à la dérive, un invité encombrant pour un ami proche dont la famille est absente. Hébétée par l'alcool, je me demandais, pendant les 18 ou 19 jours où je suis restée chez cet homme, où vais-je aller quand sa famille entrera? Quand leur retour devint imminent et que la seule réponse qui me venait à l'esprit était le suicide, je me suis rendue à la chambre de Ralph un soir et je lui ai dit la vérité. Il était très fortuné, il aurait pu faire ce que plusieurs hommes auraient fait dans ce cas. Il aurait pu me donner 50 $ et me dire que je devais me secouer et prendre un nouveau départ. J'ai remercié Dieu souvent au cours des 16 dernières années qu'il ne l'ait pas fait. Au lieu de cela, il s'est habillé, m'a emmené faire un tour, m'a payé 3 ou 4 consommations et m'a mis au lit. Le lendemain, il m'a confié aux soins d'un homme qui connaissait Dr. Bob, même si aucun des deux n'était alcoolique, et ils étaient prêts à se rendre jusqu'à Akron pour me confier à ses soins. La seule condition qu'ils ont posée était la suivante. Je devrais prendre la décision moi-même. Quelle décision? Mes choix étaient limités. Aller vers le nord dans une pinède et me suicider, ou aller vers le sud avec le faible espoir qu'un groupe d'étrangers pourrait m'aider avec mon problème d'alcool. Bien, le suicide est une mesure de dernier recours et je n'y étais pas encore. Ces bons Samaritains m'ont donc conduit à Akron dès le lendemain et ils m'ont confié aux soins de Dr. Bob et du groupe d'Akron, alors minuscule. Pendant mon hospitalisation, des hommes aux yeux clairs, au visage heureux et qui arboraient un air d'assurance et de détermination sont venus me voir et m'ont raconté leurs histoires. Certaines d'entre elles étaient difficiles à croire, pourtant, il ne fallait pas être un génie pour voir qu'ils avaient quelque chose que je pourrais utiliser. Comment faire pour l'avoir? C'est simple, m'ont-ils dit avant de m'expliquer, chacun dans ses termes, le programme de rétablissement, le mode de vie quotidien que nous connaissons aujourd'hui sous le nom des 12 étapes des AA. Dr. Bob a parlé longuement de la façon dont la prière l'avait libéré, à maintes reprises, d'envie quasi irrésistible de boire. C'est aussi lui qui m'a convaincu, parce qu'il en était tellement convaincu lui-même, qu'une puissance supérieure à la mienne pouvait m'aider dans les crises de la vie et que la façon de communiquer avec cette puissance était la prière. Voici qu'un Yankee, grand, bourru et très éduqué, parlait simplement de Dieu et de la prière. Si lui et les autres avaient réussi, je le pouvais aussi. À ma sortie de l'hôpital, on m'a invité à demeurer chez Dr. Bob et sa chère femme Anne. J'ai été soudainement envahie de façon incontrôlable par cette vieille peur paralysante. L'hôpital me semblait un endroit si sûr. Je me retrouvais dans une maison étrangère, dans une ville étrangère, et la paix s'est installée en moi. Je m'enfermais dans ma chambre qui commençait à tourner. C'était la grande panique, la grande confusion et le grand chaos. De ce maelstrom sont sortis 2 idées claires. D'abord, boire signifiait devenir itinérant et mourir. Ensuite, je ne pouvais plus soulager la pression de la peur en restant à la maison, ce qui avait été ma solution habituelle à ce problème parce que je n'avais plus de chez moi. Enfin, et je ne saurais jamais combien de temps il a fallu, j'ai eu une idée bien claire. Essaie de prier. Tu n'as rien à perdre et peut-être que Dieu t'aidera. Peut-être. N'ayant personne d'autre vers qui me tourner, j'étais prêt à lui donner une chance, même si j'avais des doutes considérables. Je me suis agenouillée pour la première fois à 30 ans. La prière que j'ai dite était très simple. Elle ressemblait à ceci. Mon Dieu, pendant 18 ans, j'ai été incapable de m'occuper de ce problème. Permets-moi de te le confier. Je me suis sentie immédiatement envahie par une grande sensation de paix, tout en ayant l'impression qu'on m'insufflait une force tranquille. Je me suis couchée et j'ai dormi comme un enfant. 1 heure plus tard, je me suis éveillée dans un monde nouveau. Rien n'avait changé, pourtant, tout avait changé. Tout d'un coup, j'ai compris. Je voyais la vie comme il faut la voir. J'avais tenté d'être le centre de mon petit monde à moi, alors que Dieu était le centre de l'univers dont j'étais peut-être une partie infiniment importante, une partie importante, mais infiniment petite. Cela fait maintenant plus de 16 ans que je suis revenue à la vie. Je n'ai pas bu depuis. En soi, cette simple chose tient du miracle. Pourtant, c'est le premier d'une suite de miracles qui se sont succédés depuis que je cherche à mettre en pratique dans ma vie tous les jours les principes contenus dans nos 12 étapes. J'aimerais vous esquisser l'effet saillant de ces 16 années d'une ascension lente mais régulière. Ma mauvaise santé et mon manque d'argent m'ont forcé à demeurer chez Dr. Bob et Anne pendant près d'un an. Il m'est impossible de parler de cette année sans parler de mon amour et de ma dette de gratitude envers ces deux merveilleuses personnes qui nous ont quittés. Elles m'ont donné l'impression que je faisais partie de la famille, tout comme leurs enfants l'ont fait. L'exemple de l'aide à leurs semblables qu'ils donnaient, tout comme Bill W., qui venait fréquemment à Akron, m'a incité à faire comme eux. Parfois, au cours de cette année, je me rebellais intérieurement contre ce qui me semblait comme du temps perdu et contre le fait d'être un fardeau pour ces bonnes gens dont les moyens étaient limités. Bien avant d'avoir eu l'occasion de donner, j'ai dû apprendre la leçon tout aussi importante de recevoir gracieusement. Au cours des premiers mois à Akron, j'étais certaine de ne jamais vouloir retourner dans ma ville natale. J'en serais assaillie par trop de problèmes économiques et sociaux. Je repartirais à zéro ailleurs. Après 6 mois d'abstinence, les choses me sont apparues différemment. Détroit était l'endroit où je devais retourner, non seulement parce que je devais faire face au gâchis que je lui avais laissé, mais parce que c'est à cet endroit que je pourrais être le plus utile au Havre. Au printemps de 1939, Bill s'est arrêté à Akron en route vers Détroit pour affaires. J'ai sauté sur sa suggestion de l'accompagner. Nous y avons passé 2 jours avant qu'il ne retourne à New York. Mes amis m'ont offert l'hospitalité pour aussi longtemps que je le voudrais. Je suis restée avec eux pendant 3 semaines et j'ai passé une partie de mon temps à réparer les tâches que je n'avais jamais eu l'occasion de faire jusque-là. Le reste de mon temps était consacré au travail de défrichage pour AA. Je voulais des candidats mûrs et je ne croyais pas que j'irais bien loin à courir après les ivrognes d'un bar à l'autre. J'ai donc passé une grande partie de mon temps à visiter des gens qui, selon moi, pourraient logiquement être en contact avec des cas d'alcoolisme, des médecins, ministres du culte, avocats et directeurs du personnel dans le monde industriel. J'ai aussi parlé des AA à tous les amis qui voulaient bien m'écouter, le midi, le soir, au coin des rues. Un médecin m'a orienté vers un premier candidat. Je l'ai rejoint et je l'ai mis sur le train en direction d'Akron avec une bouteille de whisky pour lui éviter d'être tenté de descendre à Toledo. Rien à ce jour n'a égalé l'excitation ressentie lors de ce premier cas. Ces 3 semaines m'ont complètement épuisé et j'ai dû retourner à Akron pour 3 autres mois de repos. Pendant que j'y étais, Détroit nous a envoyé 2 ou 3 clients au comptant, comme les appelait Dr. Bob, probablement à cause du fait qu'ils avaient si peu d'argent. Quand je suis enfin rentré à Détroit pour trouver du travail et apprendre à subvenir à mes besoins, les choses redémarraient bien que lentement. Il a fallu 6 autres mois de travail et de déception avant qu'un groupe de 3 hommes se réunisse dans ma chambre de pension pour tenir la première réunion des AA. Cela peut sembler simple, mais il fallait surmonter les obstacles et les doutes. Je me souviens clairement d'une discussion avec moi-même peu après mon retour. Je me suis dit quelque chose qui ressemble à ceci. Si je me promène en criant du haut des toits que je suis alcoolique, cela pourrait bien m'empêcher de me trouver un bon emploi. Mais supposons que cela meure parce que, pour des raisons égoïstes, je n'ai pas parlé. Non, je suis censé faire la volonté de Dieu, non la mienne. Sa route était clairement tracée pour moi et je devrais cesser de rationaliser et de faire des détours. Je ne pouvais pas espérer garder ce que j'avais gagné sans le donner. La dépression durait toujours et les emplois étaient rares. Ma santé était encore chancelante. Je me suis donc créé un emploi. Je vendais de la bonne bonneterie pour femmes et des chemises sur mesure pour les hommes. Cela me laissait libre de faire mon travail AA et de prendre 2 ou 3 jours de repos quand je me sentais trop épuisé pour continuer. À plus d'une reprise, je me suis levé le matin avec juste assez d'argent pour du pain grillé, un café et un billet d'autobus pour me rendre à mon premier rendez-vous. Pas de vente, pas de déjeuner. Toutefois, pendant cette première année, J'ai pu subvenir à mes besoins et éviter de retomber dans ma vieille habitude d'emprunter de l'argent quand je ne pouvais le gagner par moi-même, par mon travail. C'était en soi un grand pas en avant. Pendant les 3 premiers mois, j'ai vaqué à toutes mes occupations sans automobile, n'utilisant que l'autobus et les tramways, moi qui avais toujours eu une voiture à ma disposition. Je n'avais jamais prononcé de discours de ma vie et j'aurais été atterrée à la simple idée de devoir le faire. Je me suis présentée devant des groupes Rotary partout dans la ville et j'ai parlé des alcooliques anonymes. Moi, transportée par le désir de servir les AA, j'ai participé à ce qui est probablement la première émission de radio sur les AA. Après avoir traversé une crise aiguë de trac du micro, je me suis sentie euphorique immédiatement après. Je n'ai pas tenu en place pendant une semaine parce que je m'étais engagée à prendre la parole devant un groupe de détenus alcooliques dans un hôpital psychiatrique de l'État. J'ai vécu la même expérience, une joie intense d'avoir accompli ma mission. Ai-je besoin de vous dire qui a le plus profité de tout ceci? Moins d'un an après mon retour à Détroit, les AA constituaient un groupe bien établi d'une douzaine de membres et je m'étais aussi établie dans un travail régulier et modeste où j'exploitais pour mon compte une tournée de nettoyage à sec. J'étais mon propre patron. Il a fallu 5 ans du mode de vie des AA et une grande amélioration de mon état de santé avant que je puisse exercer un emploi à temps plein dans un bureau où je n'étais pas le patron. Cet emploi de bureau m'aurait mis face à face avec un problème que j'avais évité toute ma vie d'études, mon manque de formation. Cette fois, j'ai fait quelque chose. Je me suis inscrit à des cours par correspondance d'une école qui n'enseignait que la comptabilité. Armée de cette formation spécialisée et forte de mes connaissances en affaires acquises à la dure école de la vie, j'ai pu, 2 ans plus tard, ouvrir mon propre bureau de comptable. Après 7 années de travail dans ce secteur, j'ai eu l'occasion de m'associer avec un de mes clients, un autre membre des AA. Nous nous complétons magnifiquement. C'est un vendeur né alors que j'adore les finances et la gestion. Enfin, je fais ce que j'ai toujours voulu faire, sauf que je n'ai jamais eu la patience et la stabilité requises pour étudier. Le programme des AA m'a montré comment revenir les pieds sur terre, repartir au bas de l'échelle et gravir les échelons un à un. C'est un autre changement dans mon cas. Dans un passé lointain, j'avais l'habitude de commencer tout en haut, en tant que président ou trésorier, pour me retrouver avec le shérif à mes trousses. Assez parlé de ma vie professionnelle. Il est évident que j'ai suffisamment surmonté la peur pour penser à réussir en affaires. Avec l'aide de Dieu, je suis capable, un jour à la fois, de faire face à des responsabilités dans le monde des affaires que je n'aurais même pas rêvé d'accepter il n'y a pas tellement longtemps. Qu'en est-il de ma vie sociale? Qu'est-il arrivé à ces peurs qui me paralysaient au point de faire de moi un quasi-ermite et à ma peur de voyager? Ce serait merveilleux de pouvoir vous dire que ma confiance en Dieu et mes pratiques des 12 étapes dans ma vie quotidienne ont complètement fait disparaître la peur. Mais ce n'est pas la vérité. La réponse la plus juste que je puisse vous donner est la suivante. La peur n'a jamais contrôlé ma vie depuis ce jour de septembre 1938, où j'ai découvert qu'une puissance supérieure à la mienne pouvait non seulement me redonner la maison, la raison, mais me garder abstinent et sain d'esprit. Jamais, en 16 ans, ai-je fui quelque chose à cause de la peur. J'ai fait face à la vie au lieu de la fuir. Certaines choses qui me paralysaient de peur me rendent encore nerveux. Mais dès que je m'y mets, la nervosité disparaît et je prends plaisir. Depuis quelques années, j'ai eu l'heureuse occasion de pouvoir combiner temps et argent pour me permettre de voyager. J'ai tendance à être assez agitée un jour ou deux avant le départ, mais je pars quand même et dès ce moment, je m'amuse ferme. Ai-je eu soif au cours de ces années? Une seule fois, j'ai été l'objet d'une envie irrésistible de prendre un verre. Étonnamment, les circonstances et le décor étaient plaisants. J'étais assis à une table superbement dressée, j'étais de bien belle humeur. Il y avait bientôt un an que j'étais chez les AA, et la dernière chose qui me venait à l'esprit était de boire. Devant moi, il y avait un verre de sherry. De sherry. J'étais prise d'une envie presque irrésistible de le prendre. J'ai fermé les yeux et demandé de l'aide. En 15 secondes ou moins, l'envie a disparu. J'ai pensé plusieurs fois à prendre un verre. C'était habituellement quand je me souvenais de ma jeunesse, au temps où il était agréable de boire. J'ai appris très tôt chez les AA que je n'avais pas les moyens de jouer avec de telles pensées, comme un jeu avec un animal de compagnie, parce que cet animal-ci pouvait se transformer en monstre. Quand cela se produit, Je remplace l'image par un autre provenant des cauchemars de ma consommation dans les derniers temps. Il y a près de 20 ans, j'ai gâché mon premier et seul mariage. Il n'était donc pas étonnant que j'ai repoussé toute idée de mariage pendant plusieurs années après mon arrivée chez les AA. Le mariage demande d'être prêt à assumer des responsabilités et exige une plus forte dose de collaboration et de compromis que le monde des affaires. Néanmoins, je devais ressentir au tréfonds de moi que la vie égoïste de célibataire n'était pas vraiment une vie. En vivant seul, on peut éviter à peu près tous les chagrins, mais on élimine ainsi toutes les joies, aussi toutes les joies. Il me restait encore un dernier grand pas à franchir pour vivre pleinement. C'est ainsi qu'il y a 6 mois, je me suis accordé une famille toute faite, composée d'une femme charmante, de 4 enfants adultes que j'adore et de 3 petits-enfants. Comme je suis alcoolique, il m'était impossible de faire les choses à moitié. Ma femme, membre des AA également, était veuve depuis 9 ans et j'avais été célibataire pendant 18 ans. Dans un tel cas, il faut beaucoup de temps pour s'adapter, mais nous sommes tous deux d'avis que les efforts en valent la peine. Nous comptons sur l'aide de Dieu et la pratique du programme des Alcooliques Anonymes pour nous aider à réussir ce projet commun. Il est évidemment trop tôt pour vous dire si je réussirai en tant que mariée à l'avenir. Je sens, par contre, que le fait que j'ai finalement assez mûri pour en arriver à entreprendre une telle tâche est un point culminant dans l'histoire d'un homme qui a fui la vie pendant 18 ans.